Le sport, nous avons parlé football ce midi dans notre journal. Nous recevions Steve Laigle qui a été élu hier à la présidence de la FCF, la Fédération Calédonienne de Football. Il est conscient des tensions qui existent au sein de la FCF. Écoutez.
C'est vrai qu'on peut constater qu'il y a de nombreux conflits et il n'y a plus qu'à souhaiter qu'avec notre mandature et mon équipe, toutes les choses s'apaisent. Il y a pas mal de points de tension et le problème c'est que depuis toutes ces années, c'est surtout des querelles de personnes. Donc on se fait plutôt la guerre plutôt que d'essayer de travailler ensemble et développer le football. Donc c'est ça qu'il faut en fait, c'est qu'à un moment donné tout le monde tire dans le même sens et que tout le monde travaille avec tout le monde, qu'on arrête d'exclure les gens parce que le débat contradictoire il doit être là et il sert à avancer normalement.
Donc il faut un peu réunifier aussi les positions au sein de la fédération et des acteurs qui dirigent le football calédonien.
Il faut réunifier tout ça, oui en effet, mais il faut aussi remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que c'est la fédération au service des clubs et pas les clubs au service de la fédération.
Steve Laigle qui succède donc à Gilles Tavergeux pour retrouver le poste qu'il occupait déjà de 2016 à 2020, la présidence de la Fédération Calédonienne de Football. Et puis nous avons également parlé du air badminton Estival Tour ce midi avec Frédéric Château, le conseiller technique de la Ligue Calédonienne de Badminton, nous a parlé de cet événement organisé tous les mardis de 16h à 18h sur la plage de Lansvata. On termine avec un mot de natation puisque des Calédoniens étaient engagés au championnat de France Benjamin, c'était en métropole. Leïna McKenzie est notamment devenue championne de France du 200 mètres 4 nages. Anaïs Delande a décroché le titre sur le 100 mètres papillon mais aussi sur le 100 mètres nage libre. Le club du CNC a par ailleurs terminé 3e de ces championnats de France Benjamin. 17h05, c'est la fin de ce mini journal. On se retrouvera à 17h45 pour Info Soir et tout de suite place à une semaine formidable présentée cette semaine par Lionel Sabot.
Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'une semaine formidable. Nos invités aujourd'hui, Grégory Sirk, bonjour.
Bonjour.
Et Ricardo Baroni, bonsoir.
Bonsoir.
Ou bonjour, c'est comme on veut. Éric Figuère est avec nous également. Bonjour.
Bonjour et bonsoir à tous.
Nous parlerons rugby tout à l'heure, Éric, parce qu'il s'est passé un
truc. Nous avons des choses à dire.
Énorme. Et on a tous noté ça sur le calendrier. Quand vous êtes arrivé tout à l'heure, sans trahir de secret à la radio, nous vous avons accueilli en disant. C'était ton week-end.
On va parler de choses agréables.
Exactement. On va parler football, si vous le voulez bien, pour commencer avec la Coupe de France. Les 32e de finale qui se sont jouées ce week-end. On ne va pas vous donner tous les résultats parce que sinon, on y est encore demain matin. En revanche, on peut parler un petit peu du tirage au sort du tour suivant, des 16e de finale. On va retenir que Marseille ira jouer à Bayeux. C'est l'un des petits poussets de la Coupe de France. Puis il y aura
le petit pousset.
Le petit, ouais. Je crois qu'ils sont deux de régional. Il y a aussi Montreuil qui est en régional 1 et qui jouera contre Amiens, club de Ligue 2. Puis il y aurait quelques chocs aussi entre clubs de Ligue 1, Lille-Lyon, Nantes-Nice. Et puis surtout un Paris Saint-Germain, Paris FC. Ils se rencontreront, je crois, la semaine d'avant en championnat. Et puis ils se retrouveront en Coupe de France. Éric Figuère, vous suivez cette Coupe de France, cette fameuse magie de la Coupe de France
mais
qu'on
oui,
nous rend toutes
on
les
le
années
dit, on le dit avec un peu d'humour. Enfin, ouais. Tu le dis avec un peu d'humour. Mais c'est vrai que ça reste un événement particulier, la Coupe de France de football, avec la plus part du temps des surprises. Mm-hmm. Il n'y en a pas eu beaucoup cette année sur ce 32e de finale. Mm-hmm. Pardon. Il y a quand même Le Havre, je crois, de mémoire,
ouais, qui se fait sortir,
et Brest,
ouais, ouais.
qui se font sortir mm-hmm. Tous les deux, ouais. Par beaucoup plus petits qu'eux. Mm-hmm. Donc il y en a encore quand même, mais en général, il y en a quand même beaucoup plus sur ces premiers tours où les meilleures équipes de première division se font surprendre parce que voilà, on commence la Coupe de France, parce qu'on n'est pas tout à fait aussi concentré qu'il le faudrait. Là, il y en a moins cette année. On voit que les clubs de premier plan, comme Paris, Marseille, Lens, Lille, font le job. Mm-hmm. Donc ça, c'est plutôt intéressant, avec pour le coup un tirage... Alors en général, Marseille a plutôt l'OM a plutôt tendance à tirer des gros clubs assez vite.
Mm-hmm. Ben non, c'est pas le cas.
C'est quasiment tous les ans pareil. Là, ça change un petit peu. Alors malgré tout, il faudra se méfier de Bayeux, puisque comme tu l'as dit, même avec le sourire, la magie de la Coupe de France demeure. Et lorsque évidemment les gros font le travail, ça c'est valable dans toutes les disciplines. Hein. Quand il y a un vrai écart entre deux joueurs de club, lorsque le gros fait le travail, le job, le boulot, il y a pas de souci, il passe. Mais mm-hmm. si effectivement il est pas aussi concentré. Les joueurs qui les rencontrent, là, les équipes, en l'occurrence Bayeux et d'autres, sont surmotivés. et réussissent de temps en temps à créer la surprise. Il y en a tous les ans, il y en aura encore.
C'était de la folie à Bayeux. Ils ont retransmis le tirage au sort en direct dans un gymnase de la ville où il y avait des supporters du club, etc. etc. On avait l'impression qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde.
Ouais, mais il faut vivre ces rencontres dans ces petits coins, justement, entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément des toutes petites villes, mais il y a des petites villes aussi. Il faut vraiment le vivre pour se rendre compte à quel point c'est important, parce que les clubs professionnels rentrent en lice, mais ces clubs amateurs ou semi-professionnels en fonction ont déjà fait X tours. Donc ça fait déjà plusieurs semaines que la compétition a commencé pour eux, avec beaucoup d'émotions aussi. Et quand ils ont la chance de rencontrer des clubs de première division, la fête est totale. Et quand en plus ça s'accompagne d'une victoire, alors là.
Ça, et en plus, c'est des joueurs, pour eux, c'est magique, on le dit un peu en souriant, mais ils vont jouer contre les joueurs qui regardent à la télé. Absolument, habituellement. Donc ils ont vraiment l'impression de vivre quelque chose d'historique, c'est une fois dans leur vie.
Et pour les tout petits clubs, ils ne jouent pas chez eux, même s'ils reçoivent. En général, ils jouent dans le grand club, dans le grand stade du club voisin, en général. Donc c'est aussi très intéressant pour eux. Il y a très souvent dans ces clubs de 3e, 4e, 5e division, enfin je parle à l'ancienne, même si aujourd'hui ça ne porte plus le même nom, il y a souvent des joueurs, des anciens pros ou des joueurs qui ont fait quelques carrières, donc ils peuvent leur raconter un petit peu. Et puis, il y a quelques jeunes aussi qui ont envie de se faire remarquer. Donc, ça fait toujours de très, très belles oppositions.
Ricardo Baroni.
Oui, ce que je trouve bien dans ces matchs, c'est que souvent, la grande équipe laisse la recette à la petite équipe. Et je trouve ça très bien.
Alors, ce week-end, il y en a qui n'ont pas joué le jeu, qui sont barrés avec la caisse.
Oui, ça arrive toujours.
Sans dire si j'ai vu, mais de coutumé, c'est ce qu'ils font. Et moi, je trouve ça très bien. Mais il ne faut pas oublier non plus que les équipes de Ligue 1, c'est l'occasion de faire jouer l'équipe B, de mettre l'équipe A au repos. Et donc, les joueurs se défoncent pour montrer à l'entraîneur qu'ils sont capables de jouer dans la première équipe. Donc, ça fait souvent des beaux matchs.
En métropole, la Coupe de France, c'est le truc un peu mythique qu'on va suivre toutes les années. En Italie, il y a la même chose, Ricardo. Il y a la Coupe d'Italie, mais est-ce que c'est aussi...
Ah non, pas du tout. Il n'y a pas des petits clubs comme ça. C'est simplement...
Il n'y a pas de compétition avec des amateurs
Non,
et des
pas
pros,
du tout. Ouais. Là, puisque la finale, ça va être Naples contre Bologne.
Bologne, oui. Et donc, c'est demain matin, je crois.
Non, pas tout de suite. Voilà. Okay. Mais par exemple, pour Naples, c'est vraiment la finale très importante pour eux. Ils ne veulent absolument pas perdre contre Bologne. Ça reste des matchs très, très importants pour les équipes de Ligue A. Ouais.
Grégory, sur ces 32e de finale, on disait pas de grosses surprises.
Il y a eu un petit exploit quand même. Il y a le Puy-en-Velay qui a battu Bordeaux. Alors Bordeaux, avec tous les problèmes qu'ils ont, mais ça reste un club
mythique,
d'un niveau bien en dessous le Puy par rapport à Bordeaux. Et pour eux, ça va être la première fois qu'ils vont en 16e de finale, sauf erreur de ma part. Donc on parlait du côté historique pour les joueurs. Là, ils ont marqué l'histoire de leur ville et de leur club.
Et surtout que le grand voisin Saint-Etienne ne sera pas en 16e de finale. Donc pourquoi pas
Saint-Etienne qui a réussi à relancer Nice.
Oui. Ah, mais on est sympa à Saint-Etienne.
et un alléchant, tu en as parlé, un alléchant Paris Saint-Germain, Paris Football Club. Ouais. Et là, je pense que Paris SG aura tout intérêt à ne pas faire trop tourner s'il a envie de continuer l'aventure et continuer à gagner, puisqu'ils ont maintenant pris l'habitude de gagner 3, 4 et maintenant 6 trophées par an. Donc s'ils veulent continuer à gagner, il va falloir qu'ils sortent.
Et Paris a toujours du mal avec ses ex. Et au Paris FC, il ne faut pas oublier qu'il y a Kevin Trapp en gardien. Donc il se fera un malin plaisir d'arrêter toutes les attaques parisiennes.
Puisqu'on parle du Paris Saint-Germain, j'aimerais, puisqu'on est en fin d'année, qu'on évoque un peu la Ligue 1, parce qu'il n'y aura plus de match de Ligue 1 en 2025. Hein, ça reprendra en début d'année. J'aimerais qu'on se focalise sur le classement général de la Ligue 1 après 16 journées. Donc Lens qui est en tête avec un point d'avance sur Paris. Marseille est troisième avec 32 points, et puis on trouve ensuite Lille, Lyon, Rennes, et puis en bas de classement, ça passe pas franchement bien pour Auxerre, pour Nantes et Metz. C'est une petite surprise quand même de pas voir le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1 à pratiquement mi-parcours, Ricardo.
Pour moi, c'est pas du tout surprenant, puisque cette année, ils ont joué énormément de matchs, beaucoup de finales. Mmh. Ils en ont perdu qu'une de finale contre Chelsea. Mais les joueurs ont été vraiment, comme on dit, pressés comme des citrons et ils ont beaucoup, beaucoup de blessés. Donc ça devient assez compliqué pour eux ce début de saison. Mais comme on le dit si bien, c'est le début de saison. L'année prochaine, là, on va voir se réveiller cette équipe quand même qui est dans un sacré niveau. On a pu le voir en Ligue des Champions. L'année passée, ils étaient encore plus en grande difficulté au niveau de la Ligue des Champions. Cette année, ils sont plus tranquilles. A priori, ils devraient se qualifier sans souci. Donc non, je pense que PSG, ça reste le PSG. Ce qui me surprend par contre, c'est qu'au niveau des premières équipes en Ligue des Champions, ben, ils jouent une fois contre une grande équipe, une fois contre une petite équipe. Tandis que le PSG, c'est toujours contre des grandes équipes. Sans compter que ces équipes, ben, pour eux, battre le PSG, ça reste une référence puisque ce sont eux
les champions. Ils sont les champions d'Europe en titre, oui.
Voilà, donc non, moi je pense que le PSG, ils ont raté qu'une finale, et en plus c'est la finale de, comment ça s'appelle déjà, Mondial des clubs. Ouais. Hein, ils ont perdu que ça. Non, je pense que puis c'est le troisième club à faire gagner toutes ces coupes après le FC Barcelone et le Bayern.
C'est ça.
Donc je pense que ça reste une référence et espérons avoir des très beaux matchs l'année prochaine. Maintenant qu'ils ne soient pas en tête en championnat, je pense que ce n'est pas un gros souci pour eux.
Ils n'ont qu'un point de retard finalement sur les Lensois.
Oui, ça va, c'est raisonnable. Hein.
Eric ?
Oui, ils sont tout prêts, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Comme l'a dit Ricardo, l'année dernière, ils ont eu du mal en première partie de saison à Champions League. Là, c'est un peu l'inverse. Il n'y a pas de souci. Ils ont eu effectivement une intersaison plus que très limitée. Ils ont eu dernièrement beaucoup de blessés. Les blessés sont en train de rentrer tranquillement. Ils montrent, même là pour la Coupe intercontinentale, même si ça se durcit un peu, ils montrent malgré tout. Alors, ça reste une victoire au tir au but, c'est vrai, mais ils restent malgré tout un ton au-dessus. On voit malgré tout que les équipes adverses, enfin pas toutes, hein, elles sont peu nombreuses à donner du fil à retordre à Paris, mais on voit, et comme l'Inter l'a fait, ou comme d'autres l'ont fait très peu, que maintenant en mettant beaucoup d'intensité, on commence à les déranger un petit peu, et c'est normal, tout ce qu'on a dit, vu l'intersaison et le nombre de blessés, mais ça va rentrer dans l'ordre, il n'y a pas d'inquiétude pour Paris.
Grégory ?
Oh ben je rejoins totalement les deux avis, et comme s'il n'y avait pas eu assez de matchs, il y a eu encore la Coupe intercontinentale la semaine dernière. Donc, c'est juste impressionnant. C'est ça. Mais on revient toujours au même débat qu'on a très souvent, c'est que les calendriers sont tout simplement inhumains.
On en parle pour le rugby assez fréquemment. Ouais. Mais
et puis ça va continuer l'année prochaine, parce qu'il y a Coupe du Monde,
c'est ça,
etc.
Parce que c'est pas des, ça des machines, jamais, c'est en fait. Des humains sur le terrain. Donc il y a un moment où ça casse, et c'est pour ça qu'il y a une telle cascade de blessés.
Les grands clubs l'ont bien compris, un effectif riche, une habitude, lorsque les coachs sont écoutés, respectés, de faire tourner les effectifs. Bon, il y a 2-3 joueurs dans le club qui jouent beaucoup, mais après le reste, ça tourne beaucoup. Donc il n'y a pas de raison. Voilà. Ce qu'on disait avant, des très très grand club espagnol, italien, anglais et allemand aussi, voilà, qui savent gagner dans des moments un peu plus délicats. Bah aujourd'hui, Paris montre que c'est un très grand club européen, mondial, avec toutes ses victoires, et donc avec un coach de très très haut niveau, ça fonctionne.
Pour revenir au championnat, j'aimerais qu'on évoque le cas du FC Nantes, 17e au classement général, à peu près à mi-saison. J'allais dire monument historique en danger, ça fait partie de ces grands clubs. Vous voyez les choses comment?
Pas trop de surprise, hein.
Grégory. Ouais.
Pas trop de surprise, ça fait déjà plusieurs saisons que c'est très très compliqué. Ça fait bien au moins 7 ou 8 saisons que c'est compliqué.
Ils finissent tous par descendre en général en Ligue 2.
Hein. À chaque fois, ça finit en mode pompier. On rappelle un ancien coach pour essayer de sauver pour le maintien. Il finit par avoir le maintien. Au bout de 4 journées, il est viré parce que entre pompier et développer un effectif, c'est pas la même chose. Donc. Malheureusement, il n'y a pas de surprise.
Ricardo.
La question que je me pose, c'est quand c'est qu'ils vont rappeler qu'on boirait.
C'est ça,
là,
voilà.
Parce que chaque fois, c'est comme ça, il est critiqué et tout, il le rappelle et puis il sauve l'équipe. Quoi. Donc, c'est,
tant que le contexte nantais ne changera pas, alors je ne vais pas critiquer le président Kita, bien sûr, parce qu'il fait vivre ce club, il y a mis énormément d'argent et beaucoup de passion, bien évidemment. Mais ça reste un club compliqué, comme l'a pu l'être aussi Montpellier après le départ de son président historique, et sans que son fils soit blâmé, bien évidemment. Mais des contextes difficiles, des années difficiles qui se succèdent, à un moment donné, le fil se tend et finit par se casser. Espérons pour eux quand même malgré tout, mais il faudra bien qu'il y en ait deux qui descendent.
Oui, c'est sûr.
Pour parler d'un cas que je connais très bien, j'ai connu ça à Toulouse, où j'étais abonné, donc je voyais vraiment ce qui se passait. Et on a eu 5 saisons à la suite, où à chaque fois on se sauve en toute dernière, même il y a un moment on se sauve sur le dernier match à Angers. Et en fait, au bout de 5 saisons, Il a fallu que le club descende pour repartir sur des basses scènes, changement d'actionnaire, changement de coach, changement de staff. Mmh. Et il n'y a que comme ça que ça repart. Et derrière, ils ont gagné la Coupe de France. Et là, ils sont en milieu de tableau. Donc, quelque part, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Nantes. Même si descendre, il n'y a jamais de garantie de remonter.
Ah non, ça, c'est sûr. Ça, je vous confirme.
Et on voit, pour parler de Nice, on parlait de Nice tout à l'heure, que ce n'est pas seulement qu'une question de moyens, puisqu'il peut y avoir des moyens dans ces clubs-là, et pour autant des difficultés.
Je repense à Toulouse, il y avait Pascal Duprat qui était arrivé avec cette causerie monumentale au dernier match
historique.
C'était incroyable, le match à Angers, j'y étais, c'était incroyable. Et on a vu derrière, dès les premières journées de la saison suivante, en fait, il était en mode pompier pour réveiller l'orgueil des joueurs, mais derrière, d'un point de vue tactique.
Mais ça, tu peux le faire qu'une seule fois, ça. Tu ne peux pas le faire.
Et après, il a été rappelé, notamment à Saint-Etienne.
À Saint-Etienne, où il a fait la même chose.
Avec le même président.
Exactement. Football encore, parce qu'a débuté ce matin la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, avec une première victoire du Maroc, qui est le pays organisateur face aux Comores, 2-0. Ça se poursuit demain. Je vous donne les matchs. Il y a Mali, Zambie, Afrique du Sud, Angola et Égypte, Zimbabwe, pour ceux qui suivent cette compétition. Cette compétition, elle est toujours un peu curieuse, parce que finalement, elle va handicaper un petit peu les clubs européens, parce qu'il y a quand même du beau monde à jouer cette Coupe d'Afrique des Nations, Ricardo ?
Moi, il y a deux joueurs que je regarde, c'est Hakimi, qui est quand même le ballon d'or africain, donc ça reste quand même une référence, et donc il n'a pas joué ce matin avec son équipe du Maroc. On espère qu'il va revenir. Et puis il y a Mohamed Salah, qui est donc un grand, grand joueur de Liverpool, et on sait tout ce qui s'est passé depuis quelques mois au sein de l'équipe de Liverpool, où c'était un dieu, et il semblerait qu'actuellement ça ne se passe pas très bien. Et donc j'aimerais bien voir s'il va se relancer avec l'Égypte. C'est ce qui m'intéresse surtout au niveau de cette CAN. Mais ce qui est joli, c'est que des fois, on a des matchs où c'est débridé et on se retrouve encore à avoir du spectacle et des très beaux buts. Comme ce matin, le Maroc a marqué un but vraiment exceptionnel. Et donc, je pense qu'il faut regarder la CAN et que c'est très intéressant, même si ça doit pénaliser les clubs européens.
Ça va moins pénaliser, je prends la parole, mais ça va moins pénaliser à l'avenir, puisqu'on passe d'une compétition qui a toujours eu lieu tous les deux ans, à maintenant, la prochaine fois, tous les quatre ans. Voilà, donc il y aura moins d'impact pour les clubs professionnels, notamment français. Mais ça reste une compétition qui... Voilà, on peut toujours dire que tout est intéressant, mais en fait, c'est pas toujours très intéressant non plus. Voilà, moi, je le dis sans honte, et c'est pas une question de critiquer le football africain, puisque quand on voit tous ces footballeurs africains qui jouent en Europe, qui sont tout simplement exceptionnels, avec des capacités physiques, et pas seulement aujourd'hui, puisqu'ils ont tellement progressé depuis 15 ou 20 ans maintenant... Mais c'est une compétition qui est toujours un petit peu délicate au début, qui n'est pas toujours forcément très intéressante, et qui évidemment au fil de la compétition les matchs sont plus intéressants, mais le football reste africain, reste quand même un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir en Europe.
Grégory,
c'est ça, et après ça va surtout pénaliser les clubs de Ligue 1, puisqu'il y a une grosse tradition de scouting en Afrique de la part des clubs français, donc c'est surtout ceux-là qui sont impactés. Mais après c'est à regarder dans le sens où justement les futurs grands joueurs de Ligue 1, ils sont en train de jouer la compétition en ce moment.
Y a des favoris pour cette Coupe d'Afrique des Nations, Ricardo ?
Le Maroc. Qui a investi énormément d'argent dans des centres d'entraînement parce qu'ils veulent pas que gagner cette CAN, mais ils veulent vraiment devenir un pays où ça devient une référence au niveau de l'Afrique, au niveau du niveau. Et puis, il ne faut pas oublier, si ma mémoire est bonne, demi-finaliste de la Coupe du Monde, quand même, le Maroc. Donc, je pense qu'ils sont ultra favoris pour cette CAN.
Eric ?
Oui, le Maroc. Le Maroc.
Le roi du Maroc a l'air d'en faire une affaire personnelle. Donc,
En général, ça aide bien quand le pays entier est derrière son équipe, quand c'est en plus, qui plus est, un grand pays de la zone.
Messieurs, je vous propose de marquer une page de pub et on va revenir dans un instant pour parler rugby avec la première victoire de Perpignan en top 14 cette saison.
On se retrouve vite.
C'était
alors.
Ce week-end. À tout de suite.
RRB, c'est la pub. Vivez au rythme de Noël avec la ville de Nouméa.
Jusqu'au 23 décembre, un spectacle quotidien au kiosque à musique et un marché de Noël artisanal Place de la Marne, en partenariat avec la Chambre de métiers et de l'artisanat, feront vibrer petits et grands.
Le 24 décembre, le Père Noël arrivera à bord de son traditionnel char pour récupérer les clés de la ville des mains du maire.
Et jusqu'au 30 décembre, la fête de la lumière fera briller la place des Cocotiers tous les soirs de 19h à 23h.
Retrouvez le programme complet des animations sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons ensemble la magie de Noël.
Du 13 au 24 décembre, vivez la magie de Noël au centre commercial Hyper Upaïta. Ateliers créatifs, Lego, maquillage, sculpture de ballon, spectacle de magie. Et surtout, le Père Noël sera là pour un moment inoubliable en famille. Les enfants peuvent aussi glisser leurs plus belles lettres dans la boîte aux lettres magique. À la clé, 10 cartes cadeaux de 10 000 francs à gagner chez King Jouet. Et en bonus, la fête foraine vous attend du 16 décembre au 4 janvier pour prolonger la magie. Retrouvez le programme complet et nos horaires exceptionnels sur notre page Facebook Centre commercial Hyper Upaïta.
RRB Recherche, un commercial performant. Contactez-nous au 25 46 46 ou par mail à rrbpub@lagoon.nc.
Cette année, laissez la magie de Noël vous transporter en Provence avec Panier d'essence. Sélectionnez vos cadeaux parmi nos parfums, soins corps, soins visage et senteurs envoûtantes pour la maison. La magie de Noël vous attend en boutique au complexe La Promenade à Lanzvata ou sur panierdessence.nc.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
Retrouvez tout de suite la suite de votre semaine sportmidable présentée par Lionel Sabot et ses invités.
Une semaine sportmidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
La deuxième mi-temps d'une semaine sportmidable, on va parler rugby et Formule 1 avec un de nos invités, Grégory Cyr, Eric Figuer et Ricardo Baroni. Top 14, donc nouvelle journée ce week-end. Et on le disait, on va commencer là-dessus en donnant les résultats. Perpignan s'est imposé 26 à 20 sur Clermont. Première victoire de la saison en top 14 pour les Perpignanais. Ils avaient déjà gagné en Coupe d'Europe. Je vous donne rapidement les autres résultats. Stade français, Racing 92, 20 partout. La Rochelle a battu Bayonne 49-17. Montpellier s'est imposé 33-31 sur Castres. Victoire de Pau sur la pelouse de Montauban 53-17. La victoire de Toulouse sur la pelouse de Lyon 41-19. Ça fait plaisir. Et la victoire de Bordeaux-Bègles 46-7 ce matin face à Toulon. Eric, enfin,
merci. On en a assez parlé malheureusement pour les difficultés que l'USAP rencontrait.
Fallait bien que ça arrive.
Voilà, ils ont fait plaisir à Aimé Giral ce week-end et enfin la première victoire est arrivée. Comme tu l'as dit, il y avait eu une victoire en Coupe d'Europe, suivie contre les Italiens d'ailleurs du Benetton et suivie d'une défaite. Et puis, un peu contre toute attente, il faut le reconnaître, même si forcément les Catalans n'avaient qu'une seule envie, c'était de gagner leur premier match. Mais après 10 défaites consécutives, avec malgré tout, enfin malheureusement une grande différence dans le jeu aussi et qui se traduisait par des défaites, on avait un peu de mal à imaginer, et même si Clermont n'est pas forcément dans sa meilleure période.
Oui, mais ça reste Clermont quand même.
Ça reste Clermont, exactement, avec son fabuleux manager qui est Christophe Furios. Donc ça reste quand même toujours compliqué. Et là, ça a été la belle surprise du week-end.
Et d'autant qu'ils gagnent en étant réduits à 14. 14.
Ils ont joué une heure à 14, puisqu'ils ont perdu leur 15e après 20 minutes de jeu, je crois, 22 minutes de jeu. Donc c'est d'autant plus à signaler. Ça a fait preuve d'un courage, d'un bon état d'esprit. Ils se sont rebellés. Suite au prochain épisode maintenant, ils ont repris les points qui les séparaient de Montauban. Voilà, ils n'ont plus que 2 points d'écart. Bon, on sait que la descente et le barrage va jouer entre ces deux équipes. Il y a trop d'écart avec le.
Oui, parce que Lyon est 12e, ils ont 23 points. Voilà, Lyon et Montauban, 7
donc
points.
Y a pas de souci.
Perpignan 5.
Et puis l'USAP, malheureusement, dans ses 10 victoires, dans ses 10 défaites, ma langue a fourchu, avait aussi perdu contre Montauban.
Ouais.
Voilà, son rival direct pour le maintien en top 14. Donc ça ne laissait rien présager de bon. Et puis, cette victoire contre Clermont va, de toutes les manières, rabattre beaucoup de cartes, relancer beaucoup de joueurs, redonner une dynamique. Alors, ça ne veut pas dire pour ça que les victoires vont s'enchaîner, même si on l'espère, mais ça va faire énormément de bien au club. Donc on est très contents en Catalogne.
Grégory.
Surtout, il me semble que l'USAP a changé de staff il n'y a pas si longtemps, donc peut-être que la mayonnaise est en train de prendre... justement.
J'aimerais qu'on revienne aussi sur la victoire de Toulouse. Alors non pas parce que Toulouse est allé gagner à Lyon, ce qui pour le Stéphanois que je suis fait toujours plaisir. Non mais la victoire de Toulouse 41-19 avec une causerie en fin de match du Guomola, le manager. Toulouse a été sanctionné de 2 points par la commission de discipline pour des histoires de transfert. Et Guomola a dit, voilà, les garçons, on répond.
Ça a pété d'ailleurs dans le coup, aussi. Hein, parce que c'était Melvin Jaminet.
C'est ça, on répond par le rugby, il n'y a que le rugby, et on répond qu'à ça. Il s'est passé quelque chose côté Toulouse ce week-end. Alors je ne dis pas que la victoire à Lyon, c'est une surprise, hein, parce que les Lyonnais sont un peu en difficulté cette saison.
Même un club, enfin je vais laisser parler Grégory, même un club comme Toulouse qui gagne année après année, même s'ils ne sont pas toujours... ils remportent pas toujours la victoire finale, mais ils sont habitués évidemment d'être en tête. Mais malgré ça, ces clubs-là ont malgré tout besoin de, voilà, de temps en temps de petites piqûres de rappel, de temps en temps d'avoir des petits moments un peu plus compliqués, c'est tout à fait normal. Et puis ça permet de remobiliser tout le monde. Là aussi, il y a un très grand manager, Hugo Mola, donc voilà, de temps en temps, puis voilà, ça permet un peu de remettre un petit peu, comme on dit, l'église au centre du village.
C'est ça, et malgré le classement de Toulouse actuellement, le début de saison a quand même été assez poussif, avec des victoires qui ont été très très difficiles à aller chercher. On sentait un manque d'envie un peu sur le terrain, et également eu des grosses défaites aussi qui étaient tout simplement inattendues. Donc ça a permis à tout le monde de un peu redescendre, parce que ok, c'est bien de gagner le championnat X fois de suite, gagner la Coupe d'Europe X fois de suite, mais derrière, les autres équipes, elles n'ont qu'une envie. Après, c'est d'aller chercher Toulouse.
C'est ce qui reste le plus difficile, hein.
C'est de perdurer.
De rester au plus haut niveau, c'est certain. Moi, ce qui m'interroge, c'est ces très gros scores quand même. Et depuis le début de la saison, d'ailleurs.
Oui,
alors qui est beaucoup de points marqués, ça, ok, c'est formidable.
Mais il y a chaque fois beaucoup de points encaissés, quand même.
Mais voilà, il y a quand même des très gros écarts. La Rochelle 49-17, Pau, alors c'est contre Montauban, certes, mais 53-17. Ouais. Toulouse, donc 41-19. L'UBB, 46-7.
Ce matin, oui, c'est pas.
Alors Toulon, on sait qu'ils ont du mal à voyager, on l'a bien compris.
Oui.
Mais là, ça fait quand même. On se demande ce qui se passe quand même.
C'est ça, il y a des fois les équipes.
Des écarts aussi grands.
Ont des creux pendant les matchs. Notamment pour les matchs de Toulouse que j'ai suivis, où ils vont marquer 4 essais en 20 minutes. Enfin, ça veut dire qu'il y a un moment où les joueurs d'en face, ils ont complètement débranché et ils subissent des vagues.
Et c'est vrai que ça coûte très vite cher, hein, dès qu'il y a un moment de flottement.
Là, Lyon, ils ont pris 4 essais en 30 minutes, par exemple. Donc ça fait la différence au score à la fin, quoi. Et donc ils peuvent toujours se réveiller, mais en courant après le score comme ça, c'est compliqué, quoi.
La victoire de l'Union Bordeaux-Bègles ce matin qui se replace, qui se relance. Il y avait eu un début de saison très compliqué pour l'UBB. Là, face à Toulon, alors certes qu'ils voyagent mal, mais enfin Toulon reste 4e au classement général. C'est le... Voilà, l'UBB se réveille, j'allais dire, enfin, entre guillemets, Grégory.
Ils ont eu quand même des bons matchs en Coupe d'Europe. Donc là, ils ont réussi à retrouver leur rugby, comme on dit. Donc ils l'appliquent maintenant en top 14.
Après, Eric, au niveau du classement, on se rend compte que les deux équipes de tête ont creusé un écart, qui est évidemment pas définitif, mais qui est substantiel. Après, c'est serré finalement entre le 3e. Alors, l'UBB va forcément continuer à remonter et à grappiller des points, parce que là, on voit qu'ils sont de nouveau bien, bien dans le coup. Mais c'est quand même relativement resserré avec jusqu'au 12e, puisqu'il y a 11 points. Entre l'UBB et le 12e. Donc c'est très resserré dans cette partie-là du tableau. Deux équipes qui s'échappent et deux équipes dont on a parlé tout à l'heure qui sont en bas de classement et qui ne reviendront pas, malheureusement pour elles. Donc c'est un championnat, cette année, je trouve un peu surprenant quand même, malgré tout. Les scores, les classements, les écarts, on n'est pas trop habitué.
Et l'objectif étant d'être dans les 6 premiers et non premiers comme en foot, la bataille va être acharnée, parce que même le 6e peut prétendre à être champion.
Alors les deux premières places sont quand même très importantes, mais c'est vrai que
ça évite un match.
Si ça laisse la place pour jusqu'à Clermont, Lyon semble être un petit peu détaché, mais jusqu'à Clermont, ils sont tous en capacité d'aller chercher une qualification dans les 6 premiers.
Bon, Ricardo, vous, le rugby, c'est clairement pas votre truc. Ceci étant, l'équipe d'Italie va jouer le tournoi Destination d'ici quelques semaines. C'est un sport qui plaît en Italie, le rugby, où on n'est que football
Le rugby plaît énormément en Italie. On a des joueurs, vous l'avez dit tout à l'heure, hors antenne, qui jouent en France. Mais c'est une autre façon d'aller au match. Ça veut dire on va au match tranquille, relax. Si on gagne, on est super heureux. Si on perd, c'est pas grave, quoi. Si on va pour le spectacle, pour l'ambiance, c'est une autre façon où
D'habitude, les Italiens, on va que pour gagner, on veut la gagne, etc. Le rugby, c'est quand même différent parce qu'on est plus habitué à perdre des matchs qu'à les gagner.
Donc, c'est l'exploit à chaque fois que...
C'est vrai, voilà, tout à fait. C'est toujours un exploit quand ils arrivent à remporter un match. Mmh. J'espère que ça va changer dans les années qui viennent, mais c'est pas un sport
si
de base.
Bien, ça joue bien l'Italie quand même, mmh. hein.
Oui, mais le rugby, c'est pas un sport de base pour les Italiens. Ça devient petit à petit un sport de plus en plus intéressant et de plus en plus suivi. Les Italiens, c'est plus la Formule 1, le football, le tennis, ce genre de sport.
Mmh. Eh bien tiens, ça tombe bien, vous me faites une transition toute faite, Ricardo, puisqu'on va parler Formule 1. Alors le championnat s'est achevé il y a quelques semaines. Il reprendra au mois de mars. Et Grégory, puisque vous préparez ces émissions avec beaucoup d'attention, vous êtes allé jeter un coup d'œil à la nouvelle réglementation pour 2026. Et vous aviez envie d'en parler un peu ce soir. Alors bah, on avait un petit peu évoqué en fin de saison dernière, mais il y a des choses qui se préparent pour 2026.
C'est ça, bah c'est la seule actualité sport mécanique du moment, vu que les championnats sont finis. Et la réglementation est sortie la semaine dernière, donc ça pouvait être intéressant d'en parler, effectivement. Mmh. À noter que les voitures vont être moins larges, plus légères, et avec des modifications d'aérodynamisme qui font qu'elles devraient aller plus vite et surtout permettre de se suivre plus longtemps sans que dès qu'on se retrouve derrière une voiture, on entend souvent le pilote dire au bout d'un tour, j'ai mes pneus qui se dégradent, je lâche l'affaire, etc. Mmh. Là, ils pourront suivre plus longtemps. On a également l'abandon du DRS.
C'était l'aileron mobile à l'arrière.
Maintenant, on va avoir l'aileron avant et arrière qui vont être mobiles.
Ouais.
Par contre, ce n'est plus le pilote qui va avoir la possibilité de faire cette activation quand il est dans une fenêtre de une seconde avec la voiture qui le précède. Mmh. Là, il va y avoir un mode ligne droite, un mode virage qui vont être mis en place.
Ça fait un peu Mario Bros.
À force, ça fait un peu Mario Kart.
Aussi. Mario Kart, oui, pardon.
Ça, ils vont augmenter la partie énergie électrique. Avec, maintenant, on va avoir quasiment 50-50 d'énergie thermique et électrique. Là où avant, c'était 80 thermique et 20 électrique. Mm-hmm. Donc, personnellement, après, je suis pas un expert. Il y a des gens qui en parleraient beaucoup mieux que moi, mais... Elle est un peu paradoxale, cette réglementation. D'un côté, on dit on veut favoriser l'attaque des pilotes qui puissent se suivre un maximum, se doubler en bridant même la voiture qui précède et en permettant à celle derrière d'avoir un regain de puissance. Mm-hmm. Et d'un autre côté, on dit par contre, gérer bien l'énergie, parce que sinon, en plein milieu du Grand Prix, vous allez finir en panne. Donc c'est un peu bizarre. Quoi.
Ouais. Ricardo, la Formule 1. Évidemment, Ferrari, ils en sont où ? Ils travaillent sur la voiture. On cherche de l'info tout le temps quand on est italien et qu'il y a une saison qui se prépare. Comment ça se passe ?
Moi, je vais profiter qu'il y a un spécialiste pour lui poser une question.
Attention, il est spécialiste de la colle, Ricardo.
Et Ferrari, ça passera après. Mais cette réglementation, j'ai lu des articles avant cette émission sur Mercedes qui crée des tas de débats au sujet de son moteur, mais il semblerait qu'il n'y a rien de complètement définitif. On attend le début des Grands Prix pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment, etc. J'ai lu cet article sur Mercedes qui avait un moteur qui développait plus de chevaux quand le moteur était chaud, mais quand il y avait au moment des contrôles, tout redevenait normal quand le moteur était refroidi. Mmh. Donc je me dis, on va avoir des surprises en début de saison.
Je pense que toutes les écuries vont aller chercher le bout de la réglementation.
Là, on va
réglementation,
finir comme les derniers Grands Prix où il y a des pilotes disqualifiés pour 0,01 mm d'écart. Quoi.
C'est comme ça qu'on a pu voir Cédric Vasseur de Ferrari dire que les cartes sont redistribuées. Mmh. Donc moi, j'attends de voir le premier Grand Prix à Melbourne, qui va faire exactement quoi, les contrôles, etc. Mmh. Mmh. Donc c'est quand même quelque chose qui relance la Formule 1, je trouve. Mais malgré tout, on a fini avec un super championnat. Hein. Le dernier Grand Prix, suspense total. Je pense que là, la Formule 1 a été gagnante sur toute la ligne. Maintenant, concernant Ferrari, c'est vrai qu'ils sont en train de passer par des moments très difficiles. En début de saison, ils sont performants. On a l'impression qu'ils vont tout déchirer pendant l'année du championnat. Et après, il s'avère qu'en course, c'est pas du tout ça. C'est pour ça que j'ai vu aussi un article et pourra confirmer que Leclerc envisage de changer d'équipe si ça devient pas un petit peu plus performant au sein de Ferrari. Mmh. Donc c'est vrai que Ferrari met le paquet et a gagné d'autres championnats, mais eux souhaitent absolument gagner le championnat de Formule 1. Pour eux, c'est la référence. De gagner le championnat d'endurance, ça fait toujours plaisir. Mais le championnat de Formule 1, pour eux, c'est quand même quelque chose de référent au sein du team Ferrari. Et je trouve que ça fait un bon moment qu'ils ne gagnent plus de Grand Prix. Oui, l'année dernière, ils en ont gagné, mais cette année... Et c'est rien de ne pas gagner. C'est exceptionnel quand ils sont sur le podium.
Les cloches n'ont pas sonné à Maranello cette année.
Ah non, là, non, pas du tout. À la corde, ils ont pu l'enlever et qu'ils tirent les cloches. Mais c'est déjà exceptionnel quand ils sont sur le podium. Et c'est un peu dommage de voir un compétiteur comme Hamilton ne peut pas pouvoir concurrencer pour la gagne. C'est vraiment dommage. On avait eu un Grand Prix, si j'ai bonne mémoire, il avait fait la pole et gagné le sprint. Mais après, on ne l'a plus jamais revu. Mmh. Quoi. Et c'est vraiment un peu dommage pour la Formule 1 qui concerne Ferrari, parce qu'on a d'autres teams comme McLaren, Red Bull, ce genre d'équipe qui quand même nous donne envie de suivre la Formule 1. Mmh.
Ça commence à critiquer un peu chez les Italiens quand Ferrari ça marche pas beaucoup. On sait que les tifosi peuvent être à fond derrière une équipe, mais que quand ça va pas, ça peut tailler quoi. Enfin...
Moi, ce qui m'a dérangé. Comme ça ne va pas, ben, ils commencent à mettre en cause les performances de Hamilton en disant il a été acheté à grand budget, mais il n'est pas performant, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Et donc, c'est un peu dommage d'aller trouver des excuses. Je pense que lui-même, Hamilton, pour le grand compétiteur que c'est, s'il pouvait gagner ou faire un podium, il le ferait bien volontiers. Mais les vrais supporters doivent être là quand l'équipe n'est pas performante. Mmh. D'être là et de faire les champions quand ils gagnent des Grands Prix, je pense que c'est à la portée de tout le monde et on va voir ce qui va se passer dans les mois qui suivent.
Mmh. Une petite info aussi, Formule 1, je crois qu'on n'en avait pas parlé dernièrement, c'est Isaac Hadjar qui signe chez Red Bull.
Il a commencé à piloter.
Ça y est, c'est fait. C'est une bonne nouvelle pour lui.
On avait eu l'occasion, je crois. D'en parler, mais effectivement... valait mieux que ça arrive en fin de saison qu'en cours de saison, parce que c'est jamais évident de changer d'écurie en cours et
le timing
surtout
est bon.
Une première saison, la pression elle aurait été ingérable. Mmh. Là au moins il a pu prouver dans une écurie mineure ce qu'il pouvait faire et ça permet de faire une transition qui est plus douce et surtout il arrive avec comme on dit ici avec beaucoup de respect et d'humilité dans le sens où il a dit il est bien conscient qui ne vient pas là pour battre son partenaire, mais pour apprendre. Mmh. Donc ça, déjà, c'est un bon état d'esprit.
Ricardo
et le duo Verstappen-Hadjar, tous les duos qu'il y a eu jusqu'à maintenant avec Verstappen, il les a écrasés.
C'est ça.
Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Malgré que lui, il l'apprécie beaucoup dans ses déclarations et qu'il a beaucoup de respect, entre nous soit dit, il ne peut pas dire le contraire. Donc... qu'est-ce que pense le spécialiste sur les prochains Grands Prix?
Je ne suis pas spécial. Mais non, c'est sûr que... Tous les partenaires de Verstappen, je ne sais pas si on peut dire partenaire d'ailleurs, vu l'issue qu'il y a eu, mais à chaque fois, comme la voiture est développée pour Verstappen, c'est le seul qui arrive à en tirer 100% des capacités. Est-ce que là, le fait qu'il y ait un nouveau pilote plus une nouvelle réglementation, ils vont essayer un peu de revoir la façon de développer? Je ne suis pas sûr non plus, donc à voir...
C'est un peu comme du temps de Schumacher.
Exactement.
C'était la même chose. Hein. Ça veut dire que l'équipier de Schumacher, c'était compliqué.
C'était le numéro 2.
Après, il y a des rumeurs aussi que j'ai lues, mais encore une fois, ça va être que des rumeurs d'intersaison. Mais la nouvelle réglementation, apparemment, ne plairait
pas
à Verstappen.
Il
envisagerait de faire d'autres disciplines parce que lui, faire un Grand Prix en gérant l'énergie, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est attaquer. Donc à voir si ça n'aura pas un impact. Il a été aperçu ce week-end en train de faire du pilotage sur une voiture d'endurance au Nürburgring chez Mercedes. Donc à voir s'il n'y a pas des choses qui se passent
chez Mercedes. Chez Mercedes. Messieurs, très rapidement, on va terminer avec vos coups de cœur, coups de griffe. Je vous laisse la parole. On commence avec Ricardo.
Je commence parce que c'est un petit peu long.
Ah, ok. Attention, il nous reste 3 minutes.
Ce matin, j'ai un Calédonien qui m'a dit suivre tous les biathlons. Mm-hmm. Et je trouvais ça exceptionnel parce qu'un Calédonien qui regarde des compétitions de ski comme le biathlon... Et l'équipe de France est vraiment d'un grand niveau.
Marche
et
très
donc,
bien.
Donc, je profite pour dire que les prochains JO, le 22 février, c'est en Italie, à Milan et à Cortina. Oui. Donc, suivez l'équipe de France et je pense que ça en vaudra la peine.
Il y a un Italien qui n'est pas mauvais aussi en biathlon, qui a encore gagné ce matin. Et à mon avis, il va y avoir bagarre entre Français et Italiens en Italie. Éric.
J'ai beaucoup de coups de cœur, donc je vais moi aussi essayer de faire vite, mais le plus important, c'est pour le joueur de badminton, Christo Popov, français, d'origine bulgare, qui vient de jouer l'équivalent du Masters en badminton, arrivé donc avec la 8e position sur les 8 joueurs de ce tournoi, et qui a battu en finale le numéro 1 mondial, champion du monde, un Chinois. Donc, performance exceptionnelle en jouant formidablement bien. Donc, on ne parle pas assez de ce sport. C'est un sport juste incroyable, fabuleux. Donc, bravo à lui. Et puis, vite fait, Victor Wembanyama, qui réalise un exploit de faire 100 contre pour ses 100 premiers matchs en NBA. Voilà, il n'y a que deux joueurs avant lui qui l'ont réalisé et il est encore en capacité de les rattraper. Mmh. Et puis, un joueur qui est un peu moins connu, Kylian Mbappé, qui malgré tout vient de rejoindre.
Qui joue au basket ?
Oui, un peu, mais beaucoup plus au foot et qui vient de rejoindre le record de Cristiano Ronaldo avec 54 buts 59. Dans une année civile.
59, je crois. 59.
Pas certain, mais bon, à vérifier, mais peu importe, c'est un record fabuleux. Mmh. Donc bravo.
Grégory.
Et moi, un coup de cœur pour. Alors, je sais pas si c'est la dernière de la saison ou pas, mais un coup de cœur pour RRB, qui, malgré toutes les difficultés, a permis aux passionnés de sport calédoniens d'avoir deux rendez-vous bi-hebdomadaires pour parler de sport, donc le lundi midi et le lundi après-midi. Donc voilà, un coup de cœur à la station.
Eh ben, merci beaucoup, Grégory. Merci à tous de nous avoir suivis.
On se retrouvera Noël à tous.
Peut-être la semaine prochaine. Oui, sans doute. On fera un petit truc fin d'année sympathique entre nous et avec vous tous. Merci en tout cas d'avoir été avec nous.